Les mots des religions. On retrouve Haïm Korsia pour les mots de la Torah.
Bonjour, on retrouve Haïm Korsia pour ces mots de la Torah, une rubrique régulière sur Canal Academy. Aujourd'hui, monsieur le rabbin, nous souhaiterions vous entendre sur le mot paix, qui est un mot d'actualité. Mais dans la Bible, est-ce que la paix, c'est toujours la non-guerre ou c'est un peu autre chose?
Non. Oui et non. La non-guerre, c'est déjà pas mal. C'est
oui,
mieux c'est que la guerre.
Certes.
Mais la paix, c'est un mot extraordinaire que tout le monde connaît, en hébreu, qui se dit shalom. Et le shalom, la racine, c'est le mot shalem, en hébreu, qui veut dire la plénitude. La plénitude, c'est quand il ne manque rien. Par exemple, la ville très connue, Jérusalem, cette ville en hébreu s'appelle Yerushalayim, qu'on traduit, c'est un mot composé qui veut dire la ville, non pas de la paix, comme on pourrait l'interpréter aussi, mais la ville de la plénitude. Et c'est vrai que quand on voit, en ce moment, même maintenant, la juxtaposition de tous ceux qui essayent de tirer quelque chose, de comprendre quelque chose de ce lieu, et d'apporter quelque chose à ce lieu, c'est de cette diversité, de cette homogénéité des différences que naît la beauté de cette ville, qui n'est pas une. Cette ville n'est pas une, elle est unitaire. Elle est ensemble, elle est pleine de paix parce qu'elle est pleine de complémentarité. C'est ça le véritable shalom, la paix. Alors évidemment, on retrouve ça dans des passages très beaux. Par exemple, Aaron, le grand prêtre, avait une seule vocation. Le grand prêtre, c'est pas celui qui est en lien avec Dieu. Le grand prêtre dans la Bible, c'est celui qui, comme disent les textes, aime la paix, court après la paix, et on traduit ça en disant, il rapproche les hommes les uns des autres. Donc vous voyez que la paix, c'est beaucoup plus que l'absence de guerre, c'est retisser du lien entre les hommes. Et vous imaginez à quel point on aurait besoin aujourd'hui, dans notre société, de la paix, non pas de l'absence de voitures qui brûlent, mais de la compréhension les uns des autres. Mais vous savez, déjà, quand les voitures arrêtent de brûler, c'est déjà pas mal.
Quand je vous écoute, j'ai envie de dire, mais au fond, la paix, est-ce que ce n'est pas un des noms de Dieu? Car rapprocher les hommes entre eux, c'est bien la fonction de Dieu. Si je puis dire, enfin, c'est bien le rêve de Dieu, en tout cas, non?
Madame, je ne sais si vous êtes rabbin, en tout cas, vous êtes certainement prophétesse.
C'est à votre contact que je deviens petit à petit.
Exactement. Je pense que Talmud explique que Dieu a 70 noms. C'est pas qu'il a 70 prénoms et que chacun l'appelle par son prénom. Quoique finalement, on a un rapport de proximité avec Dieu qui nous permet de trouver la façon de l'appeler. Mais de manière plus précise, les 70 noms de Dieu, c'est 70 façons de l'appréhender. L'un des plus beaux noms de Dieu, celui que j'aime bien, c'est Makom, qui veut dire en hébreu l'endroit. Dieu est l'endroit du monde, l'endroit dans lequel on se retrouve. Mais l'un de ces noms, c'est effectivement la paix. Et la paix, c'est, comme dit Talmud, il n'existe pas de plus bel ustensile pour les bénédictions de Dieu que la paix. Les commentaires ont cette image merveilleuse, et c'est vrai que la géopolitique nous le démontre tous les jours. Si vous mettez énormément de bénédictions dans un pot qui n'a pas de fond, ben les bénédictions ne restent pas, elles s'en vont, elles tombent. Si par contre vous mettez ces bénédictions dans un pot qui a un fond, alors les bénédictions sont là. Et donc on a des pays dans le monde qui auraient tout pour être heureux, et comme il n'y a pas la paix, toutes ces bénédictions, c'est que de la potentialité. Je crois que la paix, c'est la situation qui permet à toutes les potentialités humaines de s'exprimer. C'est donc finalement une phase de Dieu, oui, vous avez raison.
Alors, vous disiez tout à l'heure que le mot shalom, ça voulait dire aussi la plénitude, Haïm Korsia. Donc, si je comprends bien, c'est aussi une des fonctions des religions que de faire du lien entre les hommes. Toutes les religions, comme le mot l'indique en latin, c'est de faire du lien. Ça voudrait dire que les religions, bien sûr, sont les premières à prôner la paix. Ce qui n'est pas toujours, quelquefois, dans l'histoire, le cas.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que le problème, quand on juge les religions, c'est qu'on les juge par l'interprétation que les hommes en donnent, ou que les hommes en font dans leur vie. Et entre le message originel de Dieu et ce que les hommes en font, il y a toujours une part d'incertitude. Et je crois que c'est ça la grande misère humaine, c'est qu'un homme qui trahit le message de son créateur est non seulement quelqu'un qui se trompe, mais quelqu'un qui faute aussi contre son créateur, parce qu'il lui fait dire des choses qui ne sont pas justes. Quand on voit des hommes tués au nom de Dieu, haïr au nom de Dieu, sous prétexte que l'autre n'aime pas le même Dieu que moi ou n'aime pas Dieu de la même façon que moi, je l'éradique, je l'empêche d'être lui-même, que ce soit dans l'histoire passée, très ancienne ou plus présente, plus proche de nous ou même actuelle. C'est quelque chose de doublement insupportable parce que c'est un mensonge que les hommes osent proférer à la face des hommes et c'est une trahison du message de Dieu. Maintenant, il est évident que la paix, ça se construit aussi sur le respect des autres. Et puisqu'on parle dans un monde avec une culture judéo-chrétienne, il faut penser que le grand pas que l'Église catholique a fait, par exemple, c'est Vatican II. Vatican II n'est pas uniquement un grand pas parce qu'on a redéfini, à ce moment l'Église a redéfini ses liens avec le judaïsme, mais plus simplement parce que l'Église a accepté ce jour-là une idée fondamentale. N'importe qui n'est pas dans le catholicisme possède une part de vérité. Et donc je dois lui laisser exprimer cette part de vérité mieux. J'ai besoin de sa part de vérité que je n'ai pas pour que la vérité, dans son ensemble, soit parfaite, pour qu'il y ait cette plénitude de la vérité. Puisque chaque homme n'a qu'une part de la vérité, il se construit, nous nous construisons dans la nécessité de l'autre. Pas uniquement je le laisse parce que c'est plus sympa de laisser les autres vivre ce qu'ils ont à vivre, non. Je le laisse et je l'aide à vivre ce qu'il est, parce que de ce qu'il est, je retire quelque chose, j'ai besoin de lui. Et je crois que c'est ça la véritable paix, c'est-à-dire la véritable plénitude entre les hommes. Vous avez tout à fait raison de noter que malheureusement, au cours de l'histoire, on n'a pas toujours donné cette image.
Donc, shalom, la plénitude, la paix, la plénitude, si je vous comprends bien, Haïm Korsia, pour être pleinement humain, c'est-à-dire aussi avec cette dimension reliée à Dieu, il me faut pratiquer la paix. Chacun de nous doit pratiquer la paix.
Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire pratiquer la paix?
Ben, c'est ce que vous disiez, voilà. C'est-à-dire laisser à l'autre la place, je vous dis, pas seulement qu'il lui revient.
Si vous permettez, dans quelques instants qui me restent, je vais peut-être vous raconter une petite histoire juive.
Ah oui, oui, une
que
petite
le Talmud
histoire,
rapporte,
j'adore.
C'est l'une des plus belles pour moi. Mais avant, je veux répondre. Je ne veux pas éluder votre question. Je pense qu'à la recherche de la paix, par exemple, un militaire a le devoir de rechercher la paix. Mais il y a aussi une forme de paix intérieure. Il y a des violences contre soi, des violences en soi, des violences dans la société, des violences dans la cellule familiale. Tout ce qui apaise et aplanit les violences, les tensions entre les hommes, c'est ça, aller vers la paix. Et ne croyez pas qu'on fait les paix que quand on fait des grands colloques au centre Kléber. On fait la paix quand dans sa cuisine, dans son salon, dans sa chambre à coucher, on réussit à planir tout ce qui est si difficile, vous savez, les disputes, les tensions mortelles parfois entre père et enfant, entre mère et enfant. Est-ce que c'est pas par cette petite paix qu'on pourra reconstruire un grand espace de paix? Donc il y a des petites victoires qui contribuent largement aux grandes victoires. Et c'est justement l'histoire d'une petite victoire que je voudrais vous conter. Talmud raconte que deux frères étaient associés dans un champ. Et comme ils étaient associés et par égal, ils ont partagé en deux tas la récolte. Ils avaient deux tas. La nuit, un des frères se dit « Moi j'ai mes 6 enfants ». Quand je serai vieux, mon frère, qui n'a pas d'enfant, lui n'aura rien, personne pour l'aider. Moi, j'aurai mes enfants pour m'aider, donc j'ai moins besoin que lui. Il est allé, il a pris du tas de blé et il l'a amené sur le tas de son frère. Mais 2 heures après, son frère s'est réveillé en se disant « Mais après tout, on a fait égal, mais mon frère a beaucoup d'enfants, moi je suis seul, j'ai moins besoin que lui. » Donc il est allé sur son tas, il a pris de son tas, il l'a mis sur le tas de son frère. Et le lendemain matin, ils ont trouvé les tas égaux. Ils ont dit « Bon, il y a un problème, je sais pas. » La nuit suivante, ils ont refait la même chose. Et la nuit suivante, ils ont refait la même chose, sauf qu'ils se sont réveillés en même temps. Et ils se réveillent, ils se retrouvent au milieu de la route entre les deux tas, avec leurs 2 brouettes pleines. Et là, ils posent leurs brouettes, ils s'enlacent et ils pleurent dans les bras l'un de l'autre. Et des larmes tombent de leurs yeux sur le sol. Et Dieu dit, c'est à cet endroit que je veux construire mon temple. Mmh. Et c'est là l'origine de Jérusalem, nous raconte le Talmud. C'est une façon très belle, j'espère que l'histoire a existé,
oui,
en
tout
cas
poétique,
c'est une très belle histoire.
Très belle histoire,
c'est une
oui.
façon de dire que finalement, qu'est-ce que c'est la paix, qu'est-ce que c'est cette ville? C'est une espérance. Une espérance où les hommes sont capables de porter les problèmes et les fraternités des autres. C'est-à-dire, porter les problèmes de l'autre, c'est faire sien, faire mien les problèmes des autres. Et c'est ça, cette véritable fraternité. On peut essayer, je pense, de construire cette paix, ne serait-ce qu'en donnant quelque chose à celui qui nous tend la main, ou en donnant un sourire, même si on n'a pas d'argent. C'est ça la paix.
Merci Haïm Korsia, en tout cas vous nous avez donné au moins de belles paroles pour la paix, pour nous encourager à faire la paix, et pour nos auditeurs, je suppose qu'ils en tireront profit. On vous retrouve bientôt dans une autre chronique pour les mots de la Torah.
Au revoir.